podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelées SaaS, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces et histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2co.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, nous sommes au sommet ITSEC, le seul sommet dédié entièrement aux professionnels TI du Québec, et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Cédric Thibault, associé cybersécurité et infonuagique chez KPMG Canada. Il est reconnu pour son leadership, son enthousiasme et son savoir-faire diversifié. Il a une grande capacité à vulgariser les enjeux complexes en cybersécurité dans des langages du commun des mortels. Nous allons parler ensemble de cloud et de modernisation de l'architecture pour faciliter la mise en production. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Bonjour à tous, cette semaine, nous sommes directement au ITSEC, qui est le salon de la sécurité informatique, le seul sommet dédié entièrement aux professionnels TI du Québec. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Cédric Thibault, qui a donné une conférence sur les enjeux de sécurité d'une migration infonuagique. Donc, Cédric Thibault est associé cybersécurité et sécurité infonuagique chez KPMG Canada. Depuis près de 30 ans, il continue d'approfondir ses compétences en gouvernance des systèmes d'information et des technologies, en sécurité de l'information et dans les domaines de la gestion des vulnérabilités, de la gestion du risque, la gestion des incidents et de la sécurité infonuagique.
Ouf! Premier, je vais l'alléger ma bio, là, elle est trop longue.
Ça en a fait beaucoup, mais on entend beaucoup dans l'industrie que tu es reconnu pour ton leadership, ton enthousiasme, ton savoir-faire diversifié. Et tu es particulièrement apprécié de tes clients par le fait que tu as une grande capacité à vulgariser des enjeux complexes en cybersécurité dans des langages du commun des mortels. Donc, ça va être un plaisir de discuter ensemble cette semaine là-dessus. Voilà, donc Cédric, aujourd'hui, on va discuter ensemble de la modernisation de l'architecture pour faciliter les mises en production.
Ouais.
Donc, on ouvre le sujet tel quel, Cédric. Comment vois-tu ça, comment qu'on attaque ça, une modernisation d'architecture?
C'est certain que c'est pas un sujet qui est vraiment focalisé sur la cybersécurité proprement dite. Mais lorsqu'on travaille, lorsqu'on se spécialise en cybersécurité infonuagique, on accompagne une clientèle qui est en transformation, qui est en modernisation de ses charges de travail, justement à l'occasion d'une migration infonuagique. Donc, on a l'occasion d'accompagner énormément de clients qui ont ce choix, ont cette question. Comment est-ce que je vais migrer mes charges de travail dans l'infonuagique? Quels sont les avantages que je vais aller chercher dans l'infonuagique versus rester gérer mes TI sur site? Ça, c'est vraiment une question fondamentale. Il y a différents points de vue là-dessus, d'ailleurs.
Et on se le fait beaucoup demander, là, nous, dans notre clientèle, souvent, est-ce que je dois rester sur ma propre infrastructure locale de serveur ou j'envoie ça dans le cloud? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Comment bien le faire? Il y a un grand flou là-dedans. Là.
Et c'est parfait que les gens se posent cette question parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de voir des clients qui font une migration infonuagique sans avoir la réponse à ces questions, mais simplement pour satisfaire des conseils d'administration, des directives ministérielles ou autres. Ça, malheureusement, je pense que ça n'apporte pas toujours une grande valeur. Ça cause des échecs, des déceptions parce que au bout d'un an, deux ans, le client ne bénéficie pas, n'a pas vraiment une bonne vision de ce qu'il a gagné et en fin de compte, est déçu de son expérience. Donc moi, je suis quelqu'un de très convaincu par l'infonuagique. Je suis aussi quelqu'un de très convaincu par le fait, c'est pas une solution parfaite qu'il faut comprendre les enjeux, qu'il faut comprendre les atouts de l'infonuagique pour être capable d'avoir une bonne expérience, tout simplement. Donc, dans le cadre d'une migration d'une charge de travail, faut comprendre qu'il y a plusieurs attraits, plusieurs atouts propres à l'infonuagique qu'il est judicieux d'aller chercher. Parce que tant qu'à faire, là, je veux dire, l'objectif, c'est ça, c'est d'aller chercher ces atouts. Ces atouts, c'est quoi? C'est de faciliter déjà les mises en production. Donc là, il y a des livres fameux qui ont été écrits sur ce sujet. Les mises en production où les administrateurs TI allument des cierges, écrivent des lettres à leur mère en leur disant adieu et puis se préparent à migrer pendant un nombre d'heures indéterminé, ça devrait plus exister en 2023. Ça devrait plus exister grâce à la mise en place de pipeline, grâce à la mise en place d'automatisation, des mécanismes qui sont très simples à les mettre en place dans l'info nuagée, qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en place sur site. Donc ça, je pense que c'est la première chose, c'est faciliter les mises en production de ces applications, avoir un plus haut taux de mise en production, ce qui va mécaniquement aboutir à réduire le nombre d'échecs des mises en production. Plus vous allez faire de passages en production récurrents, fréquents, plus vous allez apprendre, vous allez documenter, puis ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en avoir, mais vous allez être capable de revenir en arrière, d'avoir des mécanismes beaucoup plus rodés et d'être plus efficaces.
Donc, si on parle de mise en production, on parle à ce moment-là de mise à jour d'un logiciel ou d'une plateforme.
Exactement.
Qui est livrée. On le voit beaucoup avec l'agilité aujourd'hui. Les mises en production, les mises à jour sont beaucoup plus fréquentes. Ça serait de simplifier ce processus-là pour diminuer le nombre de problématiques à la livraison. Donc, il faut que ça fonctionne du côté du client ou de l'usager.
C'est ça.
Donc, le fait d'aller dans le cloud nous permet de peut-être mettre les bonnes pratiques, les bons outils pour simplifier et automatiser une bonne partie de ce processus-là.
C'est ça, tu l'as dit, accélérer, simplifier. Je pense que c'est vraiment les deux maîtres mots qu'on peut aller chercher, les deux bénéfices qu'on peut aller chercher dans l'info nuagique à un coût qui, là, effectivement, est intéressant. Le coût, c'est un autre aspect. C'est beaucoup de questions sont posées là-dessus. Est-ce que c'est intéressant d'un point de vue coût d'aller dans l'info nuagique? Personnellement, je pense que la réponse est très complexe parce que justement, la réponse dépend de la façon dont vous migrez dans l'info nuagique. Vous pouvez aller chercher des économies de coûts, oui, c'est vrai, mais vous pouvez aussi augmenter vos coûts dans l'info nuagique si vous essayez de consommer des fournisseurs comme AWS, Azure, GCP, de la même manière que vous consommez votre infrastructure sur site. Ces fournisseurs sont compétitifs d'un point de vue coût, sont intéressants lorsque vous allez exploiter des services modernes dans ces environnements, lorsque vous mettez en place des architectures modernes. Là, vous avez un vrai gain en termes de coût. Si vous vous contentez de déplacer des serveurs un pour un, ça fait pas trop de sens. Et derrière, les coûts vont pas toujours être à votre avantage.
Les coûts vont vite, là, dans ce genre de cas-là. Là, souvent, ouais. On voit une règle du pouce, je pense, en dedans de 3 à 5 ans, l'allocation du cloud équivaut à peu près à l'architecture de l'autre côté, ou c'est quand même un coût rapide qui monte, là.
Ouais, alors il y a deux phénomènes. Hein. Il y a, sur le coût, moi, personnellement, j'identifie deux phénomènes. Il y a un, le fait qu'effectivement, au début, on migre peut-être un peu rapidement et puis pas de façon optimale pour les coûts. Et puis, il y a un deuxième phénomène. Moi, je compare ça, on l'a dit dans ma bio, 30 ans d'expérience, je suis très vieux. Je compare ça à l'arrivée de VMware en entreprise dans les années 90. Quand on a vu arriver VMware en entreprise, la facilité, en fait, de créer des VM a fait en sorte que le nombre de serveurs, virtuels certes, mais ça reste des serveurs à sécuriser, a explosé en entreprise. Là, on a explosé le nombre de serveurs à sécuriser. Le cloud, c'est la même chose. C'est facile, c'est tellement simple de consommer du cloud, c'est tellement rapide. Au début, on y va tout doucement, on y va de façon précautionneuse. Quand vous avez des équipes produits qui se rendent compte de la facilité, qui se rendent compte de l'intérêt d'aller consommer du cloud, effectivement, au bout de 2-3 ans, la taille de notre workload, là, ça a tendance à augmenter. Là.
La consommation est facile.
La consommation est facile. Mais je dirais que c'est pas forcément un enjeu si ce coût est relié à des bénéfices d'affaires. Si l'augmentation des coûts TI est liée à plus de livraison de nouvelles fonctionnalités, plus de visibilité sur le marché, plus de modernisation de nos systèmes, je crois qu'il y a des business cases qui peuvent se justifier là. Il y a un retour sur investissement. Mais si par contre ces coûts, malheureusement, ils sont dus à la première raison, c'est-à-dire juste qu'on a migré de façon trop simple dans l'info nuagique sans moderniser notre workload, ça c'est dommage. Là, pour le coup, il n'y a aucun gain spécifique là.
Et le coût est peut-être plus difficilement contrôlable aussi parce que c'est de la consommation, c'est facturé à la consommation, mais la consommation peut gonfler rapidement, ça peut être un peu flexible au bout de la ligne. Donc, on a vraiment soit des systèmes, des mécanismes, des gens qui surveillent cette partie-là.
Alors, voilà, c'est là où vous m'appelez.
Voilà, c'est là où
vous m'appelez. Et c'est là où on a de la chance quand même. On a, faut comprendre que ces environnements qui sont très modernes, exposent tous des API, des interfaces de programmation. Absolument tout ce qui se fait dans AWS, par exemple, c'est l'environnement sur lequel je suis plus spécialisé, mais c'est la même chose pour les autres, est relié à une API. donc est automatisable. Et vous pouvez également mettre des politiques de prévention, des politiques, ce qu'on appelle les guardrails, qui vont faire en sorte que oui, on laisse les gens consommer l'info nuagique, mais on met des limites. On peut mettre des alarmes, on peut mettre des dispositifs de blocage. On a plein de solutions. Mais effectivement, faut le faire. C'est, je veux dire, quand vous commencez, quand vous démarrez de zéro, oui, c'est vrai, là, il y a rien qui vous empêche de défoncer votre facture, là, ça, c'est sûr. Ça peut aller très, très vite. Donc, il faut mettre en place ces guardrails, c'est important.
Intéressant. Puis, si on aborde un peu l'aspect sécurité aussi entre avoir sa propre infrastructure en local, de l'amener dans le cloud, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération là-dedans? C'est quoi la vision de ton côté que tu vois par rapport à la sécurité, cybersécurité pour le cloud?
Alors, en fait, moi, ce que je vois, c'est que déjà, il faut comprendre que il y a une évolution de la sécurité quand on bascule dans l'info nuagique. Pourquoi? Bah, de la même façon que pour les équipes de développement qui vont se retrouver non plus à livrer des nouvelles fonctionnalités une fois par mois, des nouvelles versions une fois par mois, mais qui vont peut-être migrer en production plusieurs fois par jour des bug fixes ou des nouvelles fonctionnalités. Là, c'est pour la sécurité également, il y a un impact fondamental dans l'organisation du travail, dans le rythme de travail, et aussi dans la façon de déléguer une partie de la sécurité aux équipes de développement, parce que l'objectif de l'info nuagique, c'est d'aller vite, toujours, c'est d'accélérer. Donc, on veut pas freiner les équipes de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant qu'équipe sécurité, on va devoir par contre se rassurer, on va devoir mettre en place des mécanismes, des dispositifs et une visibilité qui nous permettent de confirmer que les gens ils travaillent dans le sens du monde et que on reste sécuritaire tout en ayant cette agilité, cette autonomie des équipes. Donc, il y a une vraie évolution de la sécurité et ça prend du temps. Les équipes, elles peuvent pas se transformer en deux mois, c'est pas vrai. Ça, je le vois avec tous mes clients. On sous-estime le temps que ça prend pour faire évoluer les processus, les compétences, les états d'esprit des équipes en place. Moi, j'estime entre 3 et 4 ans parfois avant d'arriver à un niveau de maturité suffisant.
Puis, je trouve ça très intéressant l'aspect que tu apportes du côté humain puis de l'équipe a une responsabilité puis il faut montrer une structure puis des guardrails à travers tout ça, puis de faire élever la connaissance des gens, puis comment ça va fonctionner. Mais il y a un aspect aussi, tu sais, on se met souvent dans les souliers de l'entrepreneur là, qui se dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Je m'en vais où? Est-ce que c'est plus sécuritaire là, local ou d'aller dans le cloud? Je pense qu'il y a des mécanismes peut-être de plus au niveau du cloud qui sont déjà mis en place par les grands de ce monde qui peut peut-être donner une perception de sécurité plus grande. Est-ce que c'est juste une perception? Est-ce que c'est vrai?
Ah non, alors c'est une excellente question et puis ça fait partie justement de c'est une des slides de ma conférence. Fondamentalement, personne peut me démontrer le contraire que l'environnement infonuagique, quand on parle des trois grands, je dirais même des deux grands, fondamentalement est plus sécuritaire que votre infrastructure sur site. Pourquoi? Pour plein de raisons, mais c'est démontré. Ils ont un nombre de certifications de sécurité que aucun client sur site ne possède. Ils ont des moyens en termes d'infrastructure physique de sécurité qui est incroyable. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Ça veut pas dire qu'il peut pas arriver des incidents, mais la proportion d'incidents est ridiculement basse par rapport à une infrastructure sur site. Maintenant, ce qu'il est primordial, mais vraiment crucial de comprendre, c'est que l'info nuagique peut être beaucoup plus sécuritaire que votre infrastructure. Peut. Elle n'est pas by design. Ce n'est pas offert sur un plateau. C'est un ensemble de mécanismes de solutions qui vous est mis à disposition, mais c'est au client de les utiliser correctement, de les configurer, de les mettre en place. Si vous décidez, vous, de migrer dans AWS, dans Azure, et de ne mettre en place aucune des recommandations de ces fournisseurs, mais d'exposer vos serveurs sur Internet, de faire ça tout boboche, écoutez, vous allez avoir des vulnérabilités et puis vous allez vous faire breacher, c'est sûr, c'est certain. Azure, AWS, Google ne va pas prendre en charge votre sécurité, ça reste votre sécurité sur un grand domaine de responsabilité. Tout ce qui est identité, configuration, c'est votre responsabilité. Et ça, c'est donc pour répondre à la question, moi, je pense que en tant que chef d'entreprise, si on décide d'aller dans l'info nuagique, on peut être rassuré sur le fait que ça va être plus sécuritaire que notre infrastructure sur site, si tant est qu'on a les compétences ou les partenaires à l'interne ou les partenaires qui vont bien pour nous accompagner. Si on n'a ni des compétences hautement spécialisées, ni de partenaires hautement spécialisés pour nous accompagner, Là, je me prendrais peut-être une gêne. J'avoue.
OK. Il nous faut du bon monde, des bons experts pour les différentes spécialités qu'il y a pour sécuriser puis bien migrer ça, s'assurer que ça fonctionne bien, que les coûts ne s'en vont pas dans la mauvaise direction de la ligne. Mais reste qu'au niveau de l'aspect sécurité, quand même, ces géants-là, Microsoft, Google, Amazon et compagnie, dépensent des millions, voire des centaines de millions de dollars pour s'assurer que la sécurité physique de ces serveurs-là sont intègres. Ils ont des ingénieurs de sécurité en arrière qui surveillent en permanence, j'imagine, l'infrastructure puis qui essaient d'appliquer les bonnes pratiques. Mais il reste quand même le last mile, un peu que j'appelle, qui est la personne qui prend en charge le serveur au bout de la ligne chez le client ou chez vous-même. Si lui fait pas les bonnes choses, ça vient d'ouvrir des failles de sécurité complètes. On vient de laisser la porte grande ouverte à ce moment.
Ouais, c'est toujours l'analogie de la maison. Là, vous pouvez habiter dans un château fort avec des douves et puis des murs d'une épaisseur incroyable. Si votre pont-levis il reste ouvert en permanence, ça va pas vous servir à grand chose, quoi. C'est exactement ça. Et pour comprendre que dans l'info nuagique, vous avez plein de types d'objets que vous pouvez aller consommer. Vous avez des objets où votre zone de responsabilité en tant que client est extrêmement faible et réduite. Puis ça, c'est parfait pour justement les entreprises qui n'ont pas forcément une grande capacité. Par contre, vous avez aussi des infrastructures as a service où là, c'est à vous de patcher, c'est à vous de mettre à jour les serveurs, c'est à vous de scanner les vulnérabilités. Vous avez énormément de responsabilités en termes de sécurité. Et ça, faut le faire correctement. Tout comme vous êtes supposé le faire correctement sur site, faut le faire correctement dans l'info nuagique, avec quand même une petite différence. C'est que les problèmes de configuration dans l'info nuagique peuvent très facilement être exploités depuis Internet, depuis n'importe quel acteur, alors que les problèmes de configuration sur site sont protégés par vos pare-feux, sont derrière vos pare-feux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à les exploiter, mais vous avez une exposition plus directe avec l'info nuagique. Donc, la configuration, c'est primordial dans l'info nuagique, c'est vraiment important.
Entrepreneurs et dirigeants qui nous écoutent, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous pleinement satisfait de la cadence et de la performance de vos équipes de développement logiciel? Eh bien, sachez qu'OpenMind Technologies et dev2co.com peuvent vous aider à améliorer la cadence dans vos développements de produits en dédiant une équipe ultra performante pour vos projets. N'hésitez pas à nous écrire directement via le site dev2co.com, donc D-E-V, le chiffre 2, C-E-O.com, ou directement sur LinkedIn. Il me fera plaisir de discuter personnellement avec vous de comment nous pouvons vous apporter de la valeur dans votre organisation. Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
Et pour quelqu'un qui se pose la question présentement, est-ce que je reste dans ma configuration, dans mon environnement local ou j'amène ça dans le cloud? C'est quoi les questions qui devraient se poser pour essayer de parfaire sa réflexion selon toi?
Effectivement, on se pose. Alors les questions qu'on se pose, c'est souvent est-ce que j'ai un gain en termes de coût? Est-ce que j'ai un gain en termes d'agilité, de rapidité de mise en marché? Hein? Est-ce que je vais être capable d'accélérer mon rythme de mise en production ou pas? Est-ce que j'ai un besoin, de toute façon, à la base? Est-ce que j'ai un pain sur site? Ça peut être aussi parfois la sécurité est une également des raisons qui peut motiver une migration. Si j'ai un historique sur site avec notamment des serveurs en fin de vie, des problèmes de licence expirée. On a en tête des histoires de bases de données en vieille version qui sont extrêmement coûteuses à renouveler. C'est clairement ce genre de scénario où une migration info nuagique s'étudie et puis peut être s'imposer de soi. En fait, l'obsolescence, les coûts, la sécurité et puis la rapidité de mise en production, je dirais que c'est comme pas mal les quatre grands piliers, les grandes motivations, je dirais.
Donc, ce seraient les quatre éléments à mettre dans la balance à ce moment-là pour voir est-ce qu'on transige à ce moment-là dans le cloud ou pas. Mais on voit que la tendance, elle est pratiquement irréversible présentement. Lorsqu'on voit souvent quand laisser la fin de vie des serveurs chez les clients locaux, par défaut, avant même souvent d'avoir fait une étude, c'est on s'en va dans le cloud. Après ça, c'est de choisir quel cloud est le mieux, puis on va vivre avec le coût que ça va coûter au bout de la ligne. Dans ce cas, nous, ce qu'on voit un peu présentement, et même qu'il y a des dirigeants informatiques qui sont jugés s'ils ne prennent pas cette décision-là. Donc, il y a comme une tendance un peu dans le marché d'aller par défaut vers là. On voit aussi que les grands fournisseurs de cloud présentement, comme les prix, c'est pas donné non plus. Donc, je ne sais pas si tu as une opinion par rapport à ça, à cette tendance-là que tout le monde prend par défaut, cette décision-là. Comment tu perçois ça? Est-ce que c'est d'un bon œil? Est-ce que c'est d'un œil plus modéré? Il faudrait faire attention? Ou...
Surprenamment, c'est modéré parce que oui, je suis convaincu qu'on est dans une vague de migration. Je suis convaincu que le Québec est en retard par rapport aux États-Unis en termes de migration. On assiste encore à des débuts de migration de grandes entreprises au Québec. Quand je pense que les grandes entreprises aux États-Unis, ça fait longtemps qu'elles y sont là. Mais pour autant, ça veut pas dire, donc ça va continuer là. On est peut-être à l'aube de 3-4 années là de migration encore intense dans l'info nuagique. Mais pour autant, je suis plus modéré sur le fait que c'est pas vrai que toutes les charges de travail doivent être migrées dans l'info nuagique. Très clairement, il y a des cas d'usage très spécifiques où peut-être pour une question de coût, notamment, ça ferait pas vraiment de sens de migrer dans l'info nuagique, où je vais peut-être plus étudier un hébergeur qu'un fournisseur info nuagique. Je fais aussi beaucoup la différence là. Selon moi, c'est deux choses différentes. Et puis, le marketing, malheureusement, vient souvent nous mêler là. Un hébergeur peut avoir beaucoup plus d'intérêt pour certaines charges de travail. Ou par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai énormément de sorties de données sur le réseau. Ma charge de travail fait en sorte que j'envoie beaucoup de données sur Internet. Ça, c'est coûteux dans l'info nuagique. La majorité des fournisseurs vous taxent pas quand vous rentrez de la donnée, mais quand vous sortez de la donnée de l'environnement. Donc peut-être que pour certains sites, certains systèmes, ces frais-là qui sont propres à des fournisseurs cloud, je vais les éviter en allant plutôt chez un hébergeur où je vais continuer à gérer mes serveurs, mais que ça va faire plus de sens. Il y a plein de cas différents. Le stockage aussi est important à prendre en compte. J'ai des clients qui ont des très, très grosses quantités de données. Il faut savoir que le coût des bêtes de stockage sur site a énormément baissé. Les fournisseurs font des prix très agressifs en ce moment. Oui, des fois, ça fait pas de sens d'aller dans l'info nuage et que ça va me coûter plus cher. Donc, ça doit être mis en balance. Et fondamentalement, je suis contre l'idée de migrer dans l'info nuagique pour migrer dans l'info nuagique. Pourquoi? Parce que je veux éviter que les clients en retirent des mauvaises perceptions, des déceptions qui font qu'ils vont globaliser leur expérience info nuagique à cause d'une migration qui a pas été judicieuse. Ça serait dommage. Je crois que l'info nuagique, il a beaucoup, beaucoup de choses à offrir quand on sait le consommer, quand on consomme pour les bonnes raisons.
Très intéressant, puis je trouve ça vraiment pertinent que tu apportes le concept d'hébergement séparé du cloud. Puis je veux juste démystifier le côté hébergement pour ceux qui nous écoutent. On parlerait à ce moment-là de détenir son propre équipement qu'on amène dans un centre de données où ce qu'on loue de l'espace pour mettre nos propres serveurs.
Son propre équipement ou un équipement loué, mais qui est loué sous, pas facturé à la consommation, mais loué à l'année, par exemple, ou au mois, là, ça se fait beaucoup, là.
Donc, on pourrait dire le cloud est facturé plus à la consommation, au bandwidth et tout ce qu'on consomme autour, tandis que le côté hébergement serait un peu plus, on loue de l'équipement directement.
C'est ça. On loue de l'équipement physique, là.
Okay,
c'est exactement ça.
Je trouve bien intéressant aussi que tu apportes le fait que chaque cas est différent, puis il faut le réfléchir. Moi, j'ai vu des clients dire, on s'en va directement dans le cloud, finalement, ça leur coûte une fortune parce qu'ils ont mal évalué ou c'est tellement difficile des fois pour les clients d'évaluer combien ça va coûter que on le fait parce que tout le monde le fait. Puis finalement, la facture est tellement grosse qu'ils retournent vers une autre méthode qui est plus côté hébergement. On entend un petit peu ça dans le marché présentement. Je serais curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Puis je sais pas si t'as déjà un parti pris pour un des major fournisseurs, mais on voit des fois des mouvements aussi que, exemple, Microsoft va chercher un gros client. Finalement, Google arrive, fait une offre, ça bouge d'un à l'autre. Après ça, AWS. Fait qu'il y a une danse un peu.
Ah oui,
que chaque grand partenaire ou fournisseur ou chaque grand cloud désire avoir des gros clients.
Ouais.
Ça se promène. Est-ce que tu observes un petit peu cet élément-là présentement dans le marché? Puis est-ce qu'il y a des conseils que tu
Ah oui, c'est sûr que les équipes de vente de Microsoft, d'Amazon et de Google travaillent fort. Hein? Ils sont très, très forts. Ils sont très bons d'ailleurs. Mais encore une fois, puis je suis conscient que c'est compliqué pour une clientèle qui se fait raconter énormément de belles histoires à longueur de journée pour faire la différence, enfin le tri entre tout ça. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des cas d'usage qui s'adaptent mieux à AWS, d'autres qui s'adaptent peut-être mieux à Azure, d'autres qui s'adaptent peut-être mieux à Google. Je vais vous donner quelques exemples simplistes qui ne doivent pas être pris à la lettre parce que faut vraiment s'asseoir, prendre le temps de s'asseoir à une table et de discuter. Mais par exemple, une startup qui travaille beaucoup avec des conteneurs, avec des environnements Kubernetes, qui a une culture de développement très forte, historiquement, c'est dans Google qu'elle va aller, c'est dans GCP, parce qu'il y a un service qui s'appelle GKE qui est vraiment, ils ont inventé Kubernetes, faut pas l'oublier. Donc, je veux dire, il y a énormément de choses intéressantes dans cet environnement pour ce type d'entreprise. Une entreprise, je pense par exemple à une PME ou même une belle entreprise qui a une culture Microsoft, qui a énormément, qui consomme notamment des outils de tiers. Je pense au tout ce qui est data stockage, lac de données, pardon, dans Microsoft avec du Power BI, etc., etc. Ah, j'allais dire, il y a quand même quelque chose là d'aller dans Azure. Il y a quand même une idée intéressante d'aller dans Azure. Je veux dire, ça c'est une. Puis à côté de ça, bah quelqu'un, une entreprise qui a beaucoup d'infrastructures, beaucoup de serveurs, puis qui veut aller gagner, se moderniser dans le cloud. AWS est parfait pour ça parce que le coût des serveurs est vraiment intéressant. Ils sont très compétitifs et puis ils ont une profondeur de service qui fait que vous pouvez ensuite aller moderniser tranquillement votre workload avec du serverless, avec du container, avec whatever. Bref, il y a plein de use cases. Et puis justement, et puis là, désolé de faire une petite passe à l'aile vers KPMG, mais je crois que c'est l'intérêt d'avoir justement des partenaires qui soient capables de venir vous accompagner, de s'asseoir avec vous, puis de vous expliquer, comprendre votre réalité pour vous expliquer qu'est-ce qui fait le plus de sens ou pas. Parce que si vous parlez à Google, à Microsoft et à Amazon, ils vont tous vous dire qu'ils sont le meilleur choix.
Tout le monde est le meilleur, exactement.
C'est sûr, hein. C'est évident.
Vraiment intéressant. Je serais curieux d'avoir ton opinion sur est-ce que, c'est peut-être du cas par cas, mais est-ce que tu privilégies le fait d'être avec un seul partenaire de cloud ou des fois de répartir sur plus qu'un partenaire de cloud? Est-ce que c'est du cas par cas? Je serais curieux d'avoir ton opinion.
Ça, c'est une question dangereuse là parce que c'est très clivé là, l'opinion là-dessus. Là, et puis, on se fait prendre à partie là. Quand... Personnellement, je me contenterais juste de dire que j'observe énormément de difficultés pour les entreprises à être très mature et très efficace, ne serait-ce que dans un environnement cloud. Et quand on en a deux ou trois, voire quatre, j'en connais qui en ont quatre différents, autant vous dire que cette complexité, elle est multipliée par quatre. Il y a pas, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc, ça fait du sens, encore une fois, notamment dans des grandes entreprises, qui peuvent avoir, par exemple, un intérêt à aller, pour un projet bien précis, à aller consommer un service bien précis qui est chez un autre fournisseur d'info nuagique. OK, on va partir ce projet dans un autre fournisseur info nuagique. Ça fait du sens. Puis, dans une grande entreprise, on s'entend qu'on a des moyens qu'on n'a pas dans une petite et moyenne entreprise. Pour moi, personnellement, une petite et moyenne entreprise, le multicloud est une erreur fondamentale. À moins que vous ayez déjà 3 à 4 ans d'expérience et que vous vous sentiez vraiment très à l'aise dans le fournisseur dans lequel vous êtes actuellement, vous avez un niveau de sécurité qui est très élevé. À ce moment-là, OK, pourquoi pas en rajouter un deuxième. Et je focaliserai d'abord, essayons de maîtriser un premier environnement et puis de monter notre niveau de maturité avant de commencer à rajouter une autre complexité.
Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une charge de travail, puis de, j'appelle ça des dépenser des calories mentales là, du côté du client pour être capable d'utiliser la pleine efficacité d'un cloud. Et là, à chaque fois qu'on en rajoute un, on a un coût d'opportunité qui est perdu à ce moment-là. Puis là, on se lance un peu partout et on n'utilise pas à pleine efficacité ou à pleine essence.
C'est beaucoup le problème des compétences. Ça revient beaucoup au problème des compétences. J'ai créé une grille très personnelle qui n'a aucune valeur en dehors de ma propre opinion, des différents niveaux de maturité des clients par rapport à l'info nuagique. Et au niveau dans le pilier people, ce qu'on observe, c'est qu'un client qui démarre sa journée to the cloud, il va toujours avoir tendance à vouloir utiliser l'équipe en place, l'organisation telle qu'elle est actuellement en place. Il va essayer de former ces gens et puis ça va être un échec parce que, là-dessus, je suis catégorique. Parce que le problème, c'est que quand vous débutez votre journée to the cloud, vous arrêtez pas vos opérations sur site là. Je veux dire, les gens, ils sont en général en sécurité. Moi, je connais pas beaucoup d'entreprises qui est overstaffées en sécurité. Ça n'existe pas au Québec, malheureusement. C'est une réalité. Donc, les gens sont déjà débordés. Puis là, vous leur demandez, en plus de continuer à gérer toute notre charge de travail, tu vas t'amuser à passer des certifications et à découvrir un environnement complètement différent. Les gens sont intéressés. C'est pas ça le problème. Mais ils ont pas le temps. Je veux dire, c'est juste humain, ils ont pas le temps. Et donc ça, c'est le premier niveau de maturité. On essaye de stretcher l'équipe en place, mais c'est compliqué. Ensuite, on commence à se dire, OK, peut-être que je vais aller chercher la compétence supplémentaire. Là, on fait appel à un KPMG, on recrute d'autres équipes, ça dépend, chacun son modèle. On va chercher une compétence additionnelle qui va s'occuper du cloud. OK. Sauf qu'il faut comprendre que être un spécialiste Azure, c'est pas tout à fait la même chose qu'un spécialiste AWS. Les objets sont différents. Oui, OK, il y a une compréhension du cloud qui est la même, mais moi, personnellement, je suis un spécialiste. Je me définis comme un spécialiste AWS. me lâchez pas dans Azure. Je vais pas être le meilleur pour vous guider là dans Azure. Clairement, là, je vais faire des erreurs, c'est sûr. Donc, ça, c'est le troisième niveau de maturité. C'est quand on est arrivé à se rendre compte que, en réalité, ça prend pas une équipe sécurité cloud, ça en prend deux, trois, en fonction du nombre d'environnements cloud qu'on a. Si vous allez voir le domaine financier, le secteur financier à Toronto, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Beaucoup de grands clients financiers en ce moment sont en train de mettre en place ou terminent la mise en place d'équipes spécialisées par cloud pour la sécurité. Donc, ça, c'est un bon exemple de complexité du multi-cloud là quand même.
Et c'est intéressant l'aspect que tu apportes que chaque cloud a besoin de son spécialiste. C'est difficile pour les dirigeants d'entreprise de comprendre ça. Souvent, la manière, moi, j'essaie de l'apporter, c'est vous construisez une bâtisse, c'est de la construction, mais c'est pas vrai que le plombier peut faire le travail de la personne qui fait la toiture et vice-versa. Dites-vous, c'est la même chose pour ceux qui nous écoutent. La réalité, c'est que chaque cloud a besoin d'un spécialiste qui connaît très bien l'environnement, qui connaît très bien les processus, qui a de l'expérience là-dedans. Donc, effectivement, si vous êtes multi-cloud, vous avez besoin de multispécialistes autant à l'interne qu'à l'externe. Donc là, c'est des coûts qui s'accumulent, perte d'efficacité peut-être, donc une réflexion à faire selon le type de
projet. Faut vraiment qu'il y ait une bonne raison. Qu'il y ait une raison d'affaires, un business case qui soit fait. Et c'est le cas, il y en a des bonnes raisons parfois. Ça peut être par exemple un très gros système qui n'est disponible que dans un environnement cloud précis, qui concerne une ou deux lignes d'affaires de votre entreprise. Bon, il y a une raison, il y a une justification. L'important, c'est qu'on soit conscient de cet investissement, c'est qu'on soit conscient de cette complexité et qu'on la découvre pas au bout d'un an ou deux. Ça, c'est vraiment désastreux.
Ce qui est trop souvent le problème.
C'est malheureusement.
Ça a toujours l'air simple de l'extérieur, mais quand on rentre dedans, on se rend compte qu'il y a une certaine complexité puis il faut bien planifier ça puis avoir les bonnes personnes autour pour arriver à...
Exactement.
Vraiment intéressant. Un dernier petit quelque chose à mentionner avant qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui, Cédric?
Non, je m'y attendais pas à cette question.
C'est bien correct, il n'y a pas de problème.
Rien de spécial. Je pense qu'on a, on a parlé de beaucoup de choses. Ça couvre pas mal de sujets. Effectivement, je crois que le plus important, ce qu'il faudrait retenir peut-être, c'est prendre le temps de parler avec des partenaires ou des spécialistes qui ne sont pas attachés à un environnement infonuagique particulier, mais qui soient capables de vous donner un conseil agnostique. Pour que vraiment vous ayez toutes les cartes en main quand vous vous lancez dans l'info nuagique. Parce que je crois sincèrement que l'info nuagique, c'est fournisseur de solutions, c'est un accélérateur, c'est très positif. Il faut juste savoir où on s'en va, de quelle façon, afin de s'assurer que l'expérience reste positive, tout simplement.
Bien intéressant. Et pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient peut-être continuer la discussion avec toi pour explorer les possibilités avec KPMG, quel serait le meilleur moyen de te rejoindre, Cédric?
Moi, clairement, LinkedIn. J'ai mon profil LinkedIn, là. Vous pouvez me contacter. J'accepte toutes les invitations, là. Donc, c'est un moyen très simple pour me joindre. Et puis, je suis toujours, je sais pas si ça s'est ressenti, mais je suis clairement un passionné, là. J'ai eu le plaisir de voir des réalisations incroyables, des succès incroyables. Donc, c'est passionnant comme sujet. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, prendre le temps, jaser autour d'un café, se rencontrer et discuter sans aucun effort de vente, mais discuter des enjeux et puis des différences qu'on voit comme tendance dans l'info nuagique, ce sera toujours avec plaisir.
Fantastique. Donc, pour ceux qui nous écoutent, on va mettre le lien de la bio LinkedIn de Cédric directement dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à le contacter directement pour continuer cette discussion. Merci beaucoup pour aujourd'hui, pour ton...
Avec plaisir.
Merci, ça sent la passion. On le voit que le sujet, on voit que les 30 années d'expérience sont là. Tu connais bien ton sujet. Donc, merci beaucoup.
Merci.
À tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Voici les éléments principaux que je retiens de ma discussion avec Cédric aujourd'hui. Si vous posez la question, est-ce qu'il vaut mieux rester dans sa configuration sur site, donc on-premises, ou amener cela dans le cloud, vous devez réfléchir à ces quatre catégories de questions. La première concerne l'obsolescence. Donc, est-ce que vous avez des serveurs qui se trouvent actuellement en fin de vie? Avez-vous des licences expirées ou encore des bases de données très coûteuses qui viennent à échéance et que vous devez remplacer? Deuxième catégorie, les coûts. Est-ce que vous avez un gain
en termes de coûts ou en termes de budget si vous migrez vers l'info nuagique. Troisième catégorie, la sécurité. Donc, avez-vous un réel besoin en sécurité qui nécessite que vous passiez dans le cloud? Et enfin, en quatrième lieu, la rapidité de mise en production. Est-ce que vous cherchez un gain en termes d'agilité ou de rapidité de mise en marché? Si oui, forte chance que le cloud peut vous aider à amener votre solution à un autre niveau. Donc, c'est les quatre éléments à mettre dans la balance pour savoir si vous devez transiter dans le cloud ou non. Voilà pour cette semaine. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Nous produisons notre contenu gratuitement pour vous. Donc, notre récompense est votre partage, votre abonnement ou commentaire sur votre plateforme de balado préférée. Donc, si cet épisode vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour le partager et ou vous abonner et ou nous laisser un commentaire. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind. À la semaine prochaine.